La vie commence à 45 ans, une émission d'Isabelle Plançon.
Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Bonjour chers auditeurs, vous m'avez manqué cette semaine, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop contente aussi, car dans cet épisode, je vais vous démontrer qu'après 45 ans, tout est possible si on le veut vraiment. Avec mon invité, on va prouver que le mot « retraite » ne rime pas forcément avec tricot, jardinage et inactivité. On va vous faire voyager autour du monde. Vous allez monter dans une pirogue à la découverte d'un peuple d'Amazonie, sauter dans une nacelle de montgolfière pour voir les cheminées des fées en Cappadoce, plonger dans la mer Rouge au petit matin. Oui, avec mon invité, prenez votre sac à dos et suivez-nous. Bonjour Nelly.
Bonjour Isabelle.
Écoute, je suis très très contente de te recevoir parce que je te suis sur Instagram depuis un petit moment. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour une émission télé.
Exactement.
Qu'on a fait toutes les deux. Et nous avons donc eu des points communs. Moi, j'ai énormément apprécié ta personnalité et je voulais que tu viennes dans mon émission. Alors, j'aimerais que tu te présentes déjà.
Alors, donc, je m'appelle Nelly, j'ai 54 ans. J'ai trois grands-enfants qui vont de 30 ans à 24.
Voilà, d'accord. Et il me semble que tu es retraitée.
Alors oui, je suis une jeune retraitée parce que j'ai fait une carrière militaire de 31 ans. Et donc, j'ai arrêté mon activité pour prendre ma pension militaire il y a 3 ans.
D'accord, il y a 3 ans, tu décides de prendre ta pension militaire. Alors, il y en a certaines qui seraient mises à la poterie, au yoga, ou je ne sais quoi. Mais toi, tu décides à ce moment-là de te mettre à voyager. C'est vrai ?
Oui, alors j'aurais pu même avoir une autre activité professionnelle à cet âge-là, comme font de nombreux militaires. Et moi, dans l'idée, c'était de partir sur mes envies, mes rêves de jeune fille et d'enfant, on va dire, hein, c'est-à-dire voyager, découvrir le monde.
Super. Donc, tu décides de voyager, mais il y a 3 ans, on se rappelle tous que c'était le Covid.
Oui, exactement.
Et toi, en plein Covid, tu décides de voyager?
Mais en fait, c'est arrivé comme ça. J'ai arrêté mon activité, j'avais prévu de voyager. Et bon, il s'est avéré que c'était en plein Covid. Et ça ne m'a pas arrêtée.
Exactement. Alors moi, je trouve ça dingue. Parce qu'à ce moment-là, je prenais double douche de lotion, tu sais, désinfectante. Quand toi, tu prenais ton sac à dos pour partir. Donc, où ça?
Alors, les frontières étant restées ouvertes au Mexique... donc j'ai pris mon sac à dos pour rejoindre ce beau pays et voilà.
Et t'es arrivée et t'es restée combien de temps au Mexique ?
Alors mon premier road trip, je suis restée 5 mois.
Mais c'était énorme, donc t'as vu pratiquement tout ?
Non, j'ai voyagé uniquement en dessous de Mexico. Donc en fait j'ai fait un grand tour en dessous de Mexico. Le Mexique, il faut savoir que c'est très très grand. Oui. Et même en bougeant tous les 4-5 jours, les 5 mois étaient vraiment nécessaires pour pouvoir aborder pas mal d'endroits.
Est-ce que tu as une image forte de ce premier voyage où tu pars ?
Alors, je suis partie à un moment vers San Cristobal, qui est dans le Chiapas. Mmh. Et j'ai eu la chance d'aborder des communautés autochtones dans les zones zapatistes. Et donc, d'assister notamment lors de fêtes à des cérémonies mayas et d'être invitée dans les familles.
C'est magnifique.
Oui, et je me suis retrouvée à danser sur des aiguilles de pin qui représentent, qui sont considérées comme l'arbre qui peut faire s'élever l'âme, mm-hmm. En étant revêtue de peau de bête, des dames de chamoula, qui ont, parce que chacun a son costume traditionnel. Mm-hmm. Et donc de danser avec ces femmes avec une peau de mouton noir.
Oui. Hein. Mm-hmm. Vous l'avez dit, oui.
Voilà. Et
ça, c'est un très bon souvenir.
Oui,
que tu
il y avait des rites également auxquels j'ai pu assister. Ils m'ont laissé assister à ce genre de choses. Et c'est vraiment très, très exceptionnel. Car même les Mexicains, il y en a beaucoup, n'ont pas accès à ce genre de
rituel.
De rituel ou même à ce genre de communauté. Hein. C'est oui. assez fermé.
Alors, en fait, ce qui m'intéresse aussi quand même, c'est que tu as décidé de partir. Mais toi, tu n'es pas riche à millions et tu es retraité. Donc, combien tu dépenses par mois? Parce que moi, je me suis dit, la première chose, j'ai pensé argent. Comment elle fait?
Oui, alors c'est vrai que quand je travaillais, quand j'étais en famille, je voyais les gens qui partaient en vacances, je me disais, mais ils sont pleins aux as, quoi. Ouais, comment ouais, ils font? Ça me paraissait inaccessible. Et donc, quand j'ai pris ma retraite, bon, c'est pas non plus énorme. J'ai des charges quand même un petit peu à côté. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais il y a plein de jeunes qui voyagent. Actuellement, quel budget ils ont pour voyager, quoi. Mmh. Comment ils font? Et en fait, c'est très simple pour voyager à moindre frais. Donc, je tourne autour, on va dire, des 900, 1000 euros par mois.
Mais comment tu fais? Tu vas pas dans des hôtels, alors?
Non. Alors, moi, je privilégie les auberges de jeunesse quand je le peux. Donc, je suis en dortoir.
T'es en dortoir, carrément? c'est sympa.
Avec des jeunes gens qui ont l'âge de mes enfants pour la plupart du temps, ou dans des petits hôtels, quand les zones ne sont vraiment pas touristiques, on trouve des petits hôtels pas chers.
Alors, tu m'as expliqué que, parce que c'est vrai, au départ, on se dit, attends, allez, c'est dingue, moi, j'irai jamais dans une auberge de jeunesse. Et en fait, tu m'as expliqué que c'était vachement sympa. Et figure-toi qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un copain qui m'a dit faire exactement la même chose que toi. Il va en auberge de jeunesse et il me disait que du coup, il rencontre plein de gens et qu'ils font d'autres activités.
En fait, quand tu vas à l'hôtel, tu rencontres des gens qui viennent pour une semaine, 15 jours en vacances et qui ont un mode de fonctionnement qui n'est pas celui du voyageur. Oui. Le voyageur qui voyage sur du long terme, il tient son budget et en fait, il est tout le temps dehors à visiter, donc c'est sur du long terme. La mentalité n'est pas la même. Et en fait, moi, je rencontre forcément des jeunes qui sont en road trip, en backpack, sur du long terme et qui voyagent souvent seuls. Donc, pour les rencontres également et les activités sur place, c'est beaucoup plus simple de faire des rencontres.
Bon, alors on sait maintenant comment tu pars et on sait aussi que pour un certain nombre d'entre vous qui nous écoutez, bah peut-être que ça sera une possibilité pour vous, ça va vous ouvrir l'esprit et on espère vous motiver à partir. Alors justement, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu d'autres voyages que tu as faits. On ne va pas tous les détailler, mais finalement, après ce Mexique, tu repars et je crois que tu pars en Turquie.
Oui, alors je me suis dit, je rentre un petit peu l'été, je vais repartir 3 mois, donc septembre, octobre, novembre. Je me suis dit, bon, où je vais? Pas loin, pour 3 mois. Et donc, je me suis dit, bah, Istanbul, je ne connais pas, ça sonne bien. Donc j'ai pris un billet, vraiment, c'est pas cher du tout, hein, pour oui. aller en Turquie. Je me suis dit, si ça ne me plaît pas, j'irai dans un autre pays à côté. Et du coup, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la Turquie et j'ai fait le tour de Turquie.
Donc, tu m'as dit même que bon, tu as été à la frontière syrienne, à la frontière iranienne et qu'à un moment donné, tu arrives en Cappadoce. Moi, j'appelle ça Cappadoce ou tu dis Cappadoce, je crois.
Oui, je sais. Voilà.
Et qu'à ce moment-là, avant, tu voyageais et ensuite, tu es partie.
En fait... j'ai fait le circuit classique, on va dire, du voyage en Turquie, c'est-à-dire que commencer à Istanbul, longer toute la côte, Éphèse, voilà, Antalya, Cappadoce, etc. Une fois arrivé à Cappadoce, qui est touristique, je me suis dirigée vers Gaziantep, vers toute la zone justement du sud de la Turquie, et là je suis rentrée en aventure. Parce que lorsque tu suis le circuit classique, tu es dans un voyage. C'est normal.
Oui.
Et dès que tu rentres dans une zone qui n'est pas fréquentée touristiquement parlant, en tous les cas par des Européens, où pendant un mois et demi, tu rencontres aucun Européen, c'est clair que tu rentres en aventure. La langue, c'est le turc ou le kurde.
Oui. Attends, pour la petite histoire quand même, tu m'as expliqué au départ que tu es partie, ne parlant pas très très bien non. anglais
mais mes enfants
et pas
se
du
moquaient,
tout espagnol.
Mes enfants se moquaient de moi en me disant « Mais maman, comment tu vas faire pour voyager? Tu parles rien du tout. » Et l'anglais était très, très basique et l'espagnol inexistant.
Oui, donc voilà. C'est quand même fou. Tu es vraiment une aventurière, ça, on peut l'attester. Ce deuxième voyage, tu as eu tu as fait des rencontres extraordinaires, puis ensuite tu es partie dans un troisième voyage Je crois que là, tu pars en Inde, non ?
Non, je suis repartie au Mexique parce que, en fait, ma grande fille vit au Mexique. Hein,
ça, donc c'était
à Mexico.
Oui.
Et donc, m'avait déconseillé d'y aller lors de mon premier voyage dans le Nord en me disant « Maman, là-bas, il y a les cartels, c'est dangereux. » Donc, moi, j'avais en tête de prendre le train LGP pour aller rencontrer la communauté Tarahumara. Mm-hmm. Donc, la deuxième année, j'ai dit « Écoute, je vais y aller. Maintenant, je parle trois mots d'espagnol.
» Et je, donc,
je vais y aller. Et donc, je suis allée rencontrer cette communauté Tarahumara qui s'appelle les pieds légers et qui sont de nouveau une communauté autochtone, hein, puisque je suis très attirée par ce genre de rencontres. Donc, ils vivent plutôt dans des milieux de montagne. Et donc, j'avais l'image en tête de femmes qui couraient dans la montagne avec des espèces de claquettes qu'on appelle des huaraches. Et qui avec des grandes robes de couleur, voilà.
Donc et ça c'est ce que tu as vécu,
et
en fait.
Et c'est ce que j'ai vécu.
Ouais. On va arrêter un petit instant, j'ai un petit chat dans la gorge. Oui. Et puis, on va écouter une très jolie chanson qui s'appelle Valparaiso de nos chers bon entendeurs. En fait, là, tu reviens de quel périple ?
Alors là, je rentre de 6 mois de voyage où j'ai fait le Pérou, un petit peu le Chili. J'ai longé toute la côte brésilienne pour atteindre la Guyane française, où donc j'ai fait le carnaval et j'ai également visité la forêt amazonienne.
Tu nous as d'ailleurs régalé. Si vous voulez suivre Nelly, vous pouvez aller sur Nelly à 2L.
Avec deux L.
Voilà, Nelly avec deux L, j'arrive jamais à le dire. C'est un truc de fou. Nelly avec deux L, c'est sur Instagram. Suivez-la parce qu'elle va vous faire rêver. Et à chaque fois, elle nous emmène dans toutes ses aventures. Donc, tu as été aussi en Égypte, en Jordanie, en Israël. Et puis également, il y a une anecdote. Alors là, vraiment, vous allez rigoler. Parce que tu me racontes que tu es partie en Inde pour faire un stage de teacher yoga. Oui. Alors, est-ce que tu avais déjà fait du yoga ?
Alors, en fait, je voulais me remettre en forme suite à une opération. Et donc, j'avais dû faire 5-6 cours de yoga dans ma vie. Mais vous savez, c'est le yoga où on s'allonge, on s'étire un petit peu. Et puis voilà, c'est sympa.
Ouais, ouais.
Tu ressors, t'es bien, t'as un peu dormi sur le tapis. Et je suis partie faire un teacher yoga en anglais, avec mon super niveau d'anglais, n'est-ce pas ?
Et avec que des jeunes ?
Sur un stage d'Ashtanga yoga qui est quand même très, très costaud, avec des jeunes gens qui faisaient du yoga depuis 6-7 ans et qui venaient vraiment valider
leurs compétences
pour pouvoir être prof de yoga.
Voilà. Et tu l'as fait ?
Je l'ai fait, j'ai eu mal aux muscles, je me suis même découvert des muscles que je ne connaissais pas, donc pendant un mois.
Oui.
Et donc, bon, faut savoir que c'est quand même 6 jours sur 7. C'est levé à 6 heures, enfin, ça commence à 6 heures du matin avec de la méditation. J'avais jamais fait de méditation de ma vie. Ça finit en méditation également à 21 heures. Et c'est très, très intensif.
Mais c'était une belle expérience.
Une expérience extraordinaire parce que je trouve que ça m'a fait avancer vraiment à grands pas sur quelque chose de totalement inconnu, en fait.
Mmh. Et ensuite, d'ailleurs, tu décides de partir au Népal pour faire un petit trek toute seule, madame. Et oui, elle part de la montagne à Katmandou et hop.
Oui, alors moi, bon, après mes 3 mois de voyage en Inde, je décide, puisque c'est frontalier au Népal, de partir, malgré le froid, puisque moi, je ne suis pas du tout une montagnarde, de partir faire un petit trek, visiter le Népal et donc de faire un trek.
Là, il est arrivé comme une petite aventure.
Oui, mais arrivé une aventure, c'est-à-dire que comme ça se passait très très bien, j'ai poursuivi ma randonnée en me disant je vais redescendre vers Katmandou par la montagne.
Toute seule encore ?
Toute seule parce que j'avais pas de guide obligatoire quand je suis partie.
Voilà.
Et que ça se passait bien.
Voilà.
Sauf que, comme je l'ai dit antérieurement, je ne suis pas une montagnarde et j'ai omis de mettre des lunettes de soleil dans la neige.
Voilà, voilà, voilà.
Alors, il n'y avait pas de soleil, hein, quand même, je précise. Ouais. Mais je me suis retrouvée, malgré tout, avec une ophtalmie des neiges et j'ai dû être...
Et t'as jonglé.
J'ai été deux jours dans un gîte perdu au milieu de la montagne avec un petit poêle où il gelait et avec comme des lames de rasoir dans les yeux en ne voyant plus rien que du blanc.
Et
en me demandant quand l'hélicoptère pourrait venir me récupérer.
Bon, mais elle ne repart pas, hein, ne vous inquiétez pas, elle a pas décidé de reprendre repas assistance. Ben non, elle est restée, hein, elle a pris quelques cachets et hop, elle est partie faire la fête parce qu'il y avait le nouvel an au Népal.
Oui, en fait, j'ai quand même fait 7 jours d'hôpital.
Ah bon, d'accord.
Sous perfusion et j'ai récupéré ma vue bien heureusement. Et après, on m'a demandé si je voulais rentrer. J'ai dit non, il y a le nouvel an à Bhaktapur. J'ai fait le nouvel an, j'ai fait Pokhara et puis je suis rentrée quand même très fatiguée de ce voyage.
Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à te suivre sur Instagram, où là, je vois cette femme, cette belle femme, qui décide de partir, d'acheter un vélo, de faire ce qu'on appelle la vélocénie. Donc, tu es allée jusqu'au Mont-Saint-Michel, puis bien plus loin. Tu as fait combien de kilomètres ?
J'ai fait 1800 kilomètres en ayant dans l'idée simplement de faire un Paris-Mont-Saint-Michel pour tester, parce que je n'avais jamais fait de voyage à vélo. Et du coup, je me suis retrouvée à Brest, à faire le canal de Nantes et à remonter la Loire à vélo.
Et donc, 1800 kilomètres.
Voilà.
Et là, moi, j'aimerais bien qu'on parle de maintenant de ton prochain voyage, puisque c'est autour du vélo que ça se situe. Tu as décidé de faire
me suivent, ils attendent de savoir où je vais parce que je fais du suspense là-dessus depuis un moment. Donc, mon voyage de l'année dernière, c'était vraiment pour voir si je pouvais
y
faire
arriver.
plus grand.
Mm-hmm.
Et là, je vais me lancer sur un Paris-Dakar à vélo. C'est mon objectif.
Voilà, donc tu as l'objectif de traverser la France, traverser l'Espagne,
traverser le Maroc,
la Mauritanie et jusqu'au Sénégal. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent sponsoriser Nelly, eh bien ça sera avec grand plaisir qu'elle pourra vous montrer sur les réseaux sociaux. Si vous voulez la suivre, il faut absolument la suivre parce qu'elle a plein de choses à raconter. C'est formidable de la suivre, elle nous motive énormément. Et également, tu es en train d'écrire un livre.
Alors oui, ça c'est un projet que j'ai depuis un moment et qui est en cours. Je ne sais pas quand ce sera bouclé parce que bon, ça demande une certaine rigueur quand même d'écrire. Mais je suis effectivement en train de rédiger un ouvrage.
Et pour finir, j'ai oublié, tu as aussi une autre corde à ton arc. C'est que tu es devenue maintenant aussi modèle senior.
Ah oui, depuis 2 ans, en fait, je suivais pas mal de quinquas qui étaient dans le domaine du mannequinat, de la mode, etc. Et un jour, je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais bien faire des belles photos une fois. Et
ouais,
en fait, j'en ai fait une fois. La première fois, d'ailleurs, c'était au Mexique, à Mexico. Et depuis 2 ans, je fais régulièrement des shootings, du coup, avec des photographes. Dès que je rentre en France ou même parfois à l'étranger, je fais des shootings photos.
Voilà, donc moi, je voulais absolument que vous rencontriez dans vos petites oreilles cette femme parce qu'elle nous fait rêver. Elle montre que tout est possible après 45 ans si on le décide. Elle nous montre qu'on peut voyager, qu'on peut devenir même modèle, on peut devenir mannequin, carrément. Hein. Elle va écrire un livre. Moi, je suis époustouflée par ce que tu fais dans ta vie. Je t'adore, j'adore tout ce que tu véhicules.
C'est gentil.
Et je voulais que tu nous dises le mot de la fin de cette émission.
Alors, le mot de la fin, moi, j'ai envie de dire que l'âge, c'est qu'un chiffre. Et que tant qu'on a une petite étincelle dans la tête, il faut suivre son idée. C'est-à-dire que, voilà, il ne faut surtout pas s'arrêter aux obstacles.
Merci beaucoup, Nelly, pour cette jolie émission. À la semaine prochaine.